voix nue. Toute cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Étienne Dao. Ce soir, MIG Rennes, les années rennaises.
Étienne Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous recevez chez vous cette semaine pour cette série d'entretiens. On a évoqué hier votre discrétion, vos origines familiales, votre petite enfance à Oran. J'aimerais ce soir évoquer la ville de Rennes, où beaucoup de choses se sont jouées pour vous à la fin des années 70. Mmh. À l'époque, vous suiviez des études d'art plastique, je crois, d'anglais, mais vous m'aviez dit qu'il ne vous passionnait pas beaucoup, ces études. Quel souvenir vous gardez de cette vie d'étudiant et des autres étudiants, Étienne Dao?
Alors, la fac m'a pas beaucoup vu. Hein. J'étais surveillant d'internat, donc j'allais pas du tout aux cours, quasiment. Ce qui fait que j'ai pas eu mon diplôme. J'ai commencé art plastique et je suis arrivé en retard le premier jour et j'ai été pris en grippe par le professeur principal, ce qui m'a beaucoup compliqué la vie. Et tout était trop théorique et pas du tout technique. Ce qui fait que j'ai laissé tomber, j'ai réorienté mes études vers les études d'anglais parce que voilà, depuis l'âge de 14 ans, je partais en Angleterre pour trouver des petits boulots, pour m'acheter des disques et pour comprendre l'anglais, pour comprendre ce qu'il y avait dans les chansons que j'écoutais. Et donc voilà, et j'ai pas terminé mes études et j'ai commencé à chanter assez rapidement.
Vous ne vous êtes pas fait d'amis parmi les étudiants
Ah si, non, mais j'avais, depuis enfant, j'avais des amis jumeaux que j'ai retrouvés il n'y a pas longtemps, François et Benoît, et on était vraiment extrêmement proches. J'avais deux ou trois amis que je m'étais fait chez les scouts aussi. Donc il y avait une espèce de petit groupe comme ça. C'était bien d'aller chez les scouts, en fait, ça permettait de partir en week-end, c'était la liberté. Et puis s'il y avait la notion du groupe aussi, comme j'étais tout seul avec ma mère... Voilà, donc c'était bien de se retrouver avec d'autres gamins et de faire plein de trucs, de partir en week-end, de faire des feux, d'aller au bord de la mer, tout ça. Donc voilà. Et François et Benoît étaient, comme moi, passionnés par la littérature, la musique. Et donc on a tout appris ensemble, quoi. Vraiment, à l'époque, c'était assez luxueux d'avoir des disques, quand même, malgré tout. Des albums, je veux dire. Donc il fallait, pour obtenir un disque, soit avoir... un abonnement à la Maison de la Culture. Il y avait une discothèque où on pouvait louer des disques. Il y a beaucoup de disques que j'ai découverts comme ça. Je les gardais une semaine chez moi. Et autrement, il y avait quelques disques que je me suis acheté avec l'argent que je pouvais gagner en faisant des petits trucs, des petits boulots et tout ça. Mais en mettant de l'argent toutes les semaines, je mettais des arts pour pouvoir récupérer le trophée à un moment donné. Et c'était magique, un disque. Et on se le passait comme ça. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. C'est comme ça que j'ai découvert tous les musiciens que j'aime toujours d'ailleurs, enfin qui m'inspirent toujours.
Vous parlez par exemple des musiciens de Marquis de Sade aussi ?
Non, je parlais de Syd Barrett. Le premier album que j'ai acheté, c'est The Piper of the Gates of Dawn du Floyd. Après, j'ai plus jamais écouté les Floyd par fidélité à Barrett.
Oui, parce qu'il faut expliquer. Syd Barrett ensuite. Quitte le groupe et
il est viré. Il est viré. Wiss s'éjecte. C'est un mystère que j'ai tenté de percer avec mon dernier disque.
Blitz, qui vient de paraître.
Avec tous les gens que j'ai rencontrés. C'est une énigme, cet homme. Et puis aussi le Velvet, surtout, qui était ce monde magique où je ne comprenais pas forcément tout ce qui se disait dans cette musique. Mais j'avais des perceptions de ce qui était dit ou de ce qui était communiqué. Et puis, ça sentait le soufre, quoi. Quand on est petit, on a envie que tout sente le soufre. Donc, c'était les lectures de Selby, de Genet.
J'en reviens à Syd Barrett, qui visiblement vous préoccupe depuis longtemps. L'un des premiers membres de Pink Floyd, qui se fait renvoyer du groupe, et qui va ajouter au mystère de sa biographie en vivant quasi reclus dans un appartement dont il ne sort jamais. Je crois que sa mère venait le voir pour laver son linge.
Oui, mais ça fait partie du mystère. Pour moi, c'est Marilyn Monroe, Syd Barrett.
C'est-à-dire
bah, c'est une énigme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quand j'étais à Londres pour écrire le dernier album, souvent, il y a des coups de magie comme ça, incroyables, où toutes les choses se mettent en place pour alimenter ce qui va être dit. J'aurais écouté beaucoup de musique psyché. C'est vraiment une musique que j'aime vraiment. Il y a une espèce de dimension comme ça, de quitter son corps. Et j'aurais écouté plein de groupes. J'adorais toute la scène californienne qui est en ce moment, Froth, The Holy Wave et tout ça. Vraiment, j'adore ça. Et on m'a offert une biographie de Syd Barrett que j'avais jamais lue. Et en me plongeant dans la bio de Barrett, j'ai appris. J'étais à Londres à ce moment-là. Je loue un petit appart à Londres quand je dois bosser, qui est une petite garçonnière microscopique.
Une garçonnière?
Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ce mot-là.
C'est un, oui, un petit peu 19e siècle.
Oui, mais c'est un peu ça. Et j'ai appris que l'appartement dans lequel Syd Barrett avait été photographié pour le premier album, The Madcap Lofts, cet appartement où on voit ce parquet orange et bleu, où il est accroupi comme ça, c'était vraiment à 2 cm de l'appartement dans lequel je suis. Je me souviens, j'avais la grippe, je suis sorti avec ma grippe dans une espèce de brouillard, et j'ai trouvé l'endroit. Et j'ai regardé les fenêtres d'en bas, et les fenêtres, c'était exactement comme les photos que j'avais pu voir de cette chambre. Les 3 fenêtres comme ça, en arrondi. Et donc je me suis mis à traîner dans le quartier, comme ça. Et je savais que Dougie Fields, qui était le garçon avec qui partageait cet appartement, qui est un peintre postmoderniste, habitait toujours dans cet appartement. Et un jour, à une terrasse de café, notre salon de thé, j'ai vu Dougie, qui est très haut en couleur, on reconnaît de très loin. Il a toujours des vêtements très colorés, avec des énormes badges. Et je l'adore, vraiment. Quelqu'un, vraiment, un véritable excentrique, un authentique excentrique, un vrai. Et nous sommes devenus assez amis et il m'a invité. J'aurais jamais osé demander à ce qu'il m'invite chez lui, mais je pense qu'il devait sentir, j'en brûlais d'envie. Et il m'a invité à venir dans l'appartement. Et il a senti véritablement que c'était, je rentrais dans le lieu saint, en fait. Barrett, c'est Dieu, en fait, pour moi. Et donc, il m'a laissé une petite demi-heure dans cette chambre. Et j'ai vécu une expérience assez intense, véritablement. C'est comme si les forces obscures se mettaient en route. Vraiment, vraiment. Et ça m'a beaucoup ému de me dire que c'était dans cette chambre. Il avait tellement souffert. Et où il a écrit toutes ces chansons branques et fantastiques. Et je suis sorti de là complètement remué, vraiment bouleversé. J'ai écrit 3 chansons d'un coup. Et par la suite, il s'est passé plein d'événements. La sœur de Barrett nous a invités, Dougie et moi, à une célébration. Et je me suis retrouvé avec les frères et sœurs de Barrett. C'était quand même aussi des sensations étranges. Et ça a beaucoup alimenté cet album. En tout cas, sur les sensations, pas sur la musique du Floyd. Évidemment, je n'oserais jamais toucher à cette musique. Et je me suis tenu à l'écart du rock beaucoup et pendant toutes ces années, justement, parce que je savais que si je faisais du rock, si je me laissais aller à la musique qui m'a nourri, qui m'a formé, je serais tenté de reproduire cette musique. Et donc j'étais quasiment obligé d'essayer de trouver une voie différente, ma voie, de faire ma propre musique avec mes racines françaises.
Restons à Rennes encore un petit peu, Étienne Dao. Il y a parmi les gens que vous fréquentez quasiment une sorte de famille d'adoption que vous allez rencontrer, ce sont les Éluard.
Ah oui.
Sans rapport avec Paul Éluard.
Non, sans rapport avec Paul Éluard.
Quelle importance ils vont avoir pour vous?
Oh, ils ont été une famille de substitution. Ma mère était très absente, elle travaillait très loin, elle partait très tôt le matin, rentrant très tard le soir. Ça a été des moments très difficiles pour elle. Et donc je ne pouvais pas véritablement compter sur elle.
Et vos sœurs?
Enfin, mes sœurs étaient plus âgées que moi, donc on n'a pas vraiment habité ensemble. Surtout quand on est arrivé à Rennes, c'était difficile pour ma mère de gérer déjà un enfant, donc surtout moi. Et à l'école, dans un contest de poésie, je crois, j'ai rencontré une des filles de la famille Éluard qui était d'une beauté renversante. Vraiment, c'était la beauté. Et donc, évidemment, j'ai toujours été fasciné par la beauté. Et chaque fois qu'il y avait une élève ou un élève qui était très beau, j'étais vraiment complètement, c'était comme de la lumière, la flamme qui brille. Et donc, j'étais complètement fasciné par Elisabeth. Et sa mère est venue la chercher. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Sa mère m'a trouvé charmant, je crois. Et donc, elle m'a invité à prendre le thé le dimanche suivant. Et je suis arrivé chez eux et je ne les ai plus jamais quittés. Ce sont des amis pour la vie. C'est devenu une famille de substitution. Et ils sont 5 enfants et j'ai eu un rapport très privilégié avec chaque enfant. Très différent, très cloisonné.
Il y a un des enfants Éluard, je crois, avec qui vous êtes même allé très jeune voir un concert de Nico.
Ah oui, c'est vrai, oui, Jean-Christophe. On était très jeunes, on avait 15 ans, un truc comme ça. On était partis en stop, bien sûr. On n'avait pas le moindre centime pour prendre un train ou pour quoi que ce soit. On était partis de Rennes en stop. Et en fait, on était sur le mauvais embranchement et on a mis mais vraiment 10 heures à arriver à Paris. Et quand on est arrivé à Paris, Nico jouait au Palace.
Nico, elle est pour resituer, Nico, c'est la chanteuse.
Chanteuse du Velvet Underground, elle est restée sur scène 10 minutes. Parce que le son ne convenait pas, donc elle s'est levée, elle est partie, elle est revenue, elle a menacé l'ingénieur du son de lui casser la gueule. Nico était très impressionnante. Je l'ai connue par la suite, elle avait une prestance, une espèce de chose d'autorité qui pouvait faire un peu peur. Et donc les gens commençaient à hurler, se lever. Le concert n'a pas eu lieu, donc on s'est retrouvé à Paris avec pas d'argent, bien sûr, et pas d'endroit où aller dormir. Donc il y avait vaguement une auberge de jeunesse dont on m'avait parlé. On a dormi dans cette auberge de jeunesse sous un bureau, tous les deux. C'était moins 12. Et le lendemain, on est reparti en marche arrière, avec rien du tout pour évidemment prendre un petit déjeuner ou quoi que ce soit. Et on a mis autant de temps pour rentrer. Je crois qu'il m'en a beaucoup voulu de l'avoir entraîné dans cette galère.
Le groupe phare de ce qu'on a appelé la scène rennaise à ce moment-là, Étienne Dao, c'est Marquis de Sade. Mm-hmm. Comment est-ce que vous faites leur connaissance et qu'est-ce qu'ils apportent, eux, à ce moment-là? Puisqu'ils vont être comme un groupe nourricier pour la scène rennaise.
Oh, c'est Hervé Bordier qui a initié les transmusicales et qui organise des concerts. Donc j'ai aidé beaucoup Hervé à mettre des affiches de concerts, parce que voilà, ça me permettait de me rapprocher de la musique. Et donc, quand ils faisaient des concerts, les concerts qui m'intéressaient exclusivement, je faisais la tournée des bars, ça me coûtait pas beaucoup, pour coller des affiches. Et donc, j'avais l'impression de contribuer à tout ça. Et un jour, il m'a dit, il avait produit un 45 tours de Marquis de Sade. Et comme j'avais des liens avec Londres, je partais de temps en temps, c'était pas loin, fallait prendre le bateau à Portsmouth, de Saint-Malo à Portsmouth. Et c'était assez près. Finalement, Londres était plus près que Paris en état d'esprit. Et donc, je suis allé amener le disque à John Peel.
John Peel, qui était un DJ, une figure très influente de la BBC.
Et d'ailleurs, suite à ça, il y a eu un article dans le New Musical Express, qui était vraiment la bible de la musique à l'époque, et qui a fait un petit entrefilet sur ce 45 tours autoproduit. Et John Peel l'a passé à la radio, donc c'était une espèce de victoire. J'avais aussi l'impression de contribuer à l'émergence des Marquis de Sade. Et Hervé Bordier m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Philippe Pascal, tu vas voir, il est extrêmement charismatique, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Effectivement, je suis complètement tombé sous le charme de Philippe Pascal quand je l'ai rencontré. Il a vraiment cette chose, sur scène bien sûr, est extrêmement charismatique, mais dans la vie aussi, il est assez captivant, et on avait pas mal de fantasmes en commun, notamment le Velvet. Et il m'avait offert un livre sur la Factory. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il y avait trois images qui permettaient de fantasmer quand même. Et là, il y avait 1000 images de Malanga, Nico, John Cale, Lou Reed, de toute cette Factory. Et tu passais des nuits à regarder ces photos. Et j'ai fait la connaissance du groupe, nous sommes devenus amis. J'ai organisé ce concert de Stinky Toys dont j'ai parlé déjà, et Marquis de Sade a fait la première partie de ce concert. Donc un concert assez mythique quand même.
Alors justement, j'aurais une question, Étienne Dao. Marquis de Sade et Stinky Toys, qui décide qui va faire la première partie, ou ce qu'on appelait dans les années 60 la vedette américaine?
C'était compliqué, parce que évidemment, je ne savais pas comment organiser un concert, et je pensais que tout ça se passerait dans la bonne humeur. Mais Marquis de Sade était vraiment beaucoup plus connu à Rennes, bien sûr, et il ne voulait pas faire la première partie. Et les Toys, je me souviens, j'avais appelé Ellie à l'époque, j'avais pas le téléphone, il fallait aller sous la poste, téléphone avec des pièces et tout ça. Et elle m'avait dit pas question. Donc je m'étais dit, mais comment je vais me démerder pour solutionner ce truc-là? J'étais très tourmenté par ça, parce que j'avais évidemment jamais imaginé que ça aurait pu poser une question, et que effectivement, il y a un des deux qui devait passer en première partie. Finalement, c'est Marquis de Sade qui passe en première partie.
Et vous allez perdre beaucoup d'argent dans cette soirée, mais finalement, vous vous en moquez, puisque vous allez sympathiser avec ce qui était jusqu'ici un de vos groupes favoris.
Un groupe favori. Vraiment, je suis très passionnel et obsessionnel. Donc quand j'aime une musique ou quelqu'un ou un tableau, enfin vraiment ça prend beaucoup d'importance. Je ne sais pas aimer d'une manière un peu tiède. Je ne sais aimer que d'une manière un peu dingue en fait.
Est-ce que c'est à Ellie et Jacquenot, donc les Stinky Toys, que vous parlez la première fois de vos chansons?
Oui, oui, oui. J'écrivais des chansons depuis l'âge de 15 ans. Et j'osais pas le dire. Richard Dumas, avec lequel j'ai fait, qui est un photographe aujourd'hui, et avec lequel j'ai fait mes premières maquettes, voulait que je sois le chanteur de son groupe. Il avait un groupe qui s'appelait TVC15, comme la chanson de Bowie. Moi, bon, évidemment, j'étais très timide et pas du tout. Enfin, je me serais jamais imaginé devant un micro. C'était absurde. Et Richard voulait que je sois le chanteur de son groupe. Et il venait me chercher tous les dimanches pour que j'aille répéter. Je l'entendais monter l'escalier de chez moi. Et puis, j'étais derrière la porte. Je n'osais pas ouvrir la porte. Je suis jamais allé à une répétition. Et les Toys sont restés à Rennes parce qu'il y a eu cette tempête de neige qui a fait qu'ils n'ont pas pu rentrer avec leur petite camionnette à Paris. Donc, on s'est retrouvés dans mon petit appartement d'étudiant où il faisait moins 12. Une copine qui m'avait prêté un réchaud électrique. On était tous massés autour de ce réchaud électrique. Et on a bu jusqu'à 7h du matin où ils ont repris la route. Et j'ai fait connaissance avec des gens où je me suis dit, mais vraiment, voilà, effectivement, une famille d'esprit. Ils aimaient le rock, mais ils aimaient aussi les yéyés. Ils aimaient le Velvet et Françoise Hardy. Donc, je me suis dit, mais ça existe. Hein. Parce que j'étais très isolé, en fait. À Rennes, c'était très cloisonné. Il fallait aimer le rock. Il y avait des codes. Et moi, je me suis toujours senti un électron libre par rapport à ça. J'ai toujours détesté les uniformes, les codes et les obligations. Et pour moi, le rock était un peu, avait ce côté un peu trop sérieux qui me convenait pas, en fait. J'aimais trop de choses différentes. Et j'ai toujours eu des goûts extrêmement éclectiques en tout. Et c'est impossible pour moi d'être dans une case. Et j'ai rencontré des gens qui étaient comme ça. Eux étaient comme ça. Et l'alcool aidant, la fascination... pour ce qu'ils étaient, à savoir, j'étais fasciné de voir qu'on se ressemblait tant, et j'étais fasciné aussi par leur beauté, leur style, et puis par leur manière de parler, un truc. Enfin, ils étaient vraiment, j'étais ébloui, quoi. Et je leur ai dit, voilà, je fais des chansons. j'ai lâché le grand secret, et ils m'ont dit, ah, c'est bien, il faut que tu fasses de la musique, vas-y, c'est bien. Et c'était la première fois qu'on me disait, tu peux le faire, c'est bien. Le lendemain, j'ai commencé à écrire. J'ai vu Ellie, qui est restée un petit peu plus longtemps. Elle est rentrée en train, je crois, me semble. Et on est allé. Il y avait un marché en bas de chez moi avec des fruits. Elle était complètement végane déjà à l'époque. Et donc, je suis tombé mais amoureux, mais comme un fou. Il y avait de quoi.
En dehors d'Élie Médéros et de Jacquenot dont vous venez de parler, qui eux viennent de Paris, la scène rennaise à l'époque, elle est constituée de Marquis de Sade, de groupes
les Nus
comme
aussi.
Les Nus, bien sûr.
Albert Joulos, qui est aussi très charismatique, très fort sur scène. Il allait beaucoup à Londres, il revenait avec des t-shirts de chez Boy, avec des t-shirts, avec des cow-boys, genre Tom of Finland et tout ça. Donc c'était à l'époque, on n'avait pas trop vu ces trucs-là. Donc c'était assez sur scène, ça faisait quand même de l'effet. Et puis il y avait aussi Fracture. Tous les groupes étaient un peu des transfuges de Marquis de Sade. Ils ont tous joué plus ou moins avec Marquis de Sade. Et voilà, il y avait une scène qui était très, très, très vivace.
Et les Ombres Jaunes?
Ombres Jaunes, c'est un peu après. C'est un tout petit peu après. C'était Daniel Schoenwez. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu une espèce de deuxième vague, justement, avec l'Ombre Jaune et moi.
Qui était la personne que vous appeliez Sainte Catherine à cette époque-là, Étienne Dao?
Je l'appelais Sainte. Oh mon Dieu. C'est quelqu'un qui a été très important pour nous tous, parce qu'en fait, on était tous un peu dans la rue, quoi. Moi, j'ai eu un appartement un petit moment quand j'étais pion, parce que j'avais un peu d'argent, donc pour avoir un loyer. Mais globalement, j'habitais un peu chez personne, et donc j'habitais beaucoup chez elle. Elle avait l'art de subtiliser dans les magasins des produits de luxe, du caviar, du saumon, et on n'avait pas un rond, mais on faisait des dîners, des festins de roi, des festins luxueux. Donc voilà, il fallait apprendre à voler. Mais tout ça a été un grand jeu. C'était quelqu'un qui était comme une espèce de mère poule, en fait, pour nous tous. Et qui nous hébergeait, qui nous nourrissait, qui était notre maîtresse, parfois, aussi. Enfin, de toute façon, on avait un mode de vie tellement libre.
Que vous avez perdu, Étienne Dao?
Moi, c'est pas moi qui l'ai perdu, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est plus le même. Tout est très compliqué pour la plupart des gens.
Quand on vous interroge, Étienne Dao, sur votre vie personnelle, sur vos amours, vous répondez souvent, et c'est pratique, puisque c'est vrai qu'elle le dit très bien, vous évoquez la chanson « Des attractions, des astres » qui dit tout sur le sujet. « Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir, quel que soit l'abandon, pourvu qu'il soit le bon ?» Est-ce que cette curiosité du public et plus tard des journalistes, elle traduit aussi le côté amoureux, presque physique, de l'identification à un artiste ?
Alors ça, j'en sais rien du tout. C'est très difficile de se rendre compte de ça. Moi, j'ai écrit cette chanson comme une blague. Parce que c'est pas un sujet pour moi. C'est pas que j'ai un secret, c'est que j'ai rien à en dire. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait. C'est pas quelque chose dont on parle. Vraiment, le choc est moins fort.
Est-ce que vous pourriez nous donner un peu cette géographie rennaise à l'époque, Étienne Daho? Puisque je crois qu'il y a un bar où vous vous retrouviez.
Le bar de l'épée, ouais.
L'épée?
Oui, parce qu'il y avait des espèces d'armures avec des épées au mur. Et il y avait un couple de psychopathes qui tenaient ce bar. Et la femme battait son mari. C'était tragique, hein. Elle l'enfermait dans la cave, on l'entendait gémir pendant qu'on buvait des coups et qu'on jouait au flipper. C'était surréaliste. Mais c'était un lieu important parce que à l'époque, on n'avait pas de téléphone, bien sûr. Et donc, il y avait des lieux où on se réunissait. On savait que si on passait à telle heure, on allait voir les gens qu'on aimait. Et donc, on commençait à boire. Ensuite, on allait au restaurant universitaire et puis on revenait boire, enfin, ou se faire offrir à boire, le plus souvent possible. Enfin, c'était mon cas, en tout cas. Et puis après, on allait dans cette boîte qui était à 2 mètres de l'épée, dans laquelle on buvait jusqu'à 5h du matin, 6h du matin. Et puis après, voilà.
Qu'est-ce que c'était, cette boîte de nuit?
C'était une boîte qui s'appelait le Bachi, qui était décorée avec des grandes reproductions du livre de Guy Pellart, Rock Dreams. Et donc, c'était une boîte un peu dingue, véritablement. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait... Enfin, c'était tenu par... Enfin, peut-être qu'à l'époque, on était... Enfin, Jean-Christophe et moi, et puis d'autres, on avait des petites gueules, donc on était mignons et tout ça. Et donc, le... C'était pas le patron, mais la personne qui tenait cet endroit essayait de nous faire boire, pour profiter de nous, en fait. C'était une espèce de montagne qui s'appelait Peggy, et qui était excessivement dangereux, qui provoquait la bagarre, qui adorait se bastonner. Et qui provoquait les bagarres, parce que vraiment, ça lui faisait une adrénaline. Et donc, voilà, c'était tenu par ce personnage très haut en couleur. Et c'était fantastique, parce qu'en fait, on pouvait boire jusqu'à pas d'heure, gratuitement, et danser jusqu'à pas d'heure. Moi, j'amenais l'album des Stinky Toys, donc je pouvais l'écouter là-bas. C'était le rêve.
Question toute personnelle, comment vous avez échappé à Peggy?
Je lui plaisais pas, je crois. Jean-Christophe lui plaisait beaucoup plus, qui m'arrangeait, donc je faisais toujours rentrer devant moi, et puis je devais pas être son genre.
Dans un beau livre qui vient de paraître, Étienne Daho, un livre qui s'appelle « Avant la vague », on voit des photos inédites et un texte de Sylvie Coma. Voilà cette jeunesse rennaise qui a été la vôtre. Et on voit surtout une fiche de signalement du SRPJ de Rennes le 23 décembre 1976. Photo de face, de profil, pas de marque particulière ou de cicatrice à signaler. Motif, vol de véhicule, Étienne Daho?
Oh, mais c'est une blague, c'était pas grand-chose. J'habitais très très loin du centre et pour aller boire des coups, il fallait marcher 3/4 d'heure, revenir 3/4 d'heure. Et puis voilà, j'ai vu une voiture, c'était une 4L, je crois, c'était facile de les voler. Donc je l'ai prise et je suis descendu dans le centre pour boire des verres avec mes amis. Et puis... Donc j'ai bu plein de verres et puis je l'ai reprise pour rentrer chez moi. Et c'est là où je me suis fait attraper. Mais je comptais la remettre à sa place.
Étienne Daho, on a beaucoup écrit que vous étiez né sur scène le 18 décembre 1980. C'était la 2e édition des Transmusicales de Rennes. À l'époque, est écrit sur l'affiche « Étienne Daho, junior ».
Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, je me suis appelé Étienne Daho junior parce que mon père s'appelait Étienne. Et qu'il était toujours là, et je sais pas pourquoi, je ne connais pas la raison. Et c'est Ellie, quand elle a fait la pochette de mon premier album, Mythomane, qui m'a dit, écoute, ça c'est Junior, c'est pas possible, c'est ridicule. Et donc elle l'a enlevé, et je suis devenu de Étienne Daho Junior, je suis devenu Étienne Daho tout court.
Il paraît que vous aviez attrapé le hockey à votre premier concert, Étienne Daho.
Oui, parce que j'avais trop bu. J'avais tellement peur que j'ai énormément bu, et au moment de monter sur scène, j'ai eu le hockey, et... Je chantais une phrase sur deux, quoi. Mais ça a cartonné, hein. Tout le monde était très content. J'ai eu des papiers incroyables dans des magazines qui étaient hyper importants à l'époque, Best, Rock and Folk, tout ça, qui étaient des mensuels. On attendait tout le mois de voir comment ça allait être relayé. Et vraiment, j'ai été très gâté. Et ça m'a permis de signer plus tard. Tout d'un coup, j'ai été identifié en tant qu'Étienne Daho Junior.
On comprend mieux, vous écoutez, Étienne Daho, pourquoi il y a un magazine de l'époque qui faisait... connaître un peu la scène rennaise et qui s'appelait Migraine.
Oui, j'avais fait la couverture, ouais. Et c'était à l'époque vachement important. C'était devenu une espèce de gloire locale.
Qui s'occupait de cette revue Migraine ?
Oh, c'était un garçon super rigolo qui s'occupait du mouvement de libération homosexuelle et qui était hyper haut en couleur et qui était de toutes les fêtes et qui était vraiment un provocateur génial, quoi. Très très drôle, très amusant. Je crois qu'il s'appelait Jacques, mais je me souviens plus très bien. Et il avait monté ce magazine et donc on a tous fait la couverture. Je crois que Darcel a fait la couverture aussi. Et puis je crois qu'il y a eu 4 ou 5 numéros. Mais c'est drôle parce que il y a des interviews et on m'a donné un exemplaire de ce Migraine il n'y a pas longtemps et l'interview est géniale, elle est très très drôle, vraiment.
Au début des années 80, Étienne Dao, quand vous commencez à enregistrer vos premières maquettes, c'est aussi l'époque où il y a des radios indépendantes et des labels indépendants. Pourquoi est-ce que vos premières maquettes, vous ne les apportez pas à un label indépendant, mais vous allez à Paris pour voir une grande maison de disques, je crois que c'était Ariola.
Oh, parce qu'il y avait Lio là-bas. Et que je me disais, bon, s'ils ont signé Lio, c'est un peu de la pop yéyé comme ça, peut-être que ça va leur plaire. Mais j'avais aucune idée de rien, du tout. J'avais fait ces maquettes avec Richard Dumas, c'était des guitares-voix qu'on a retrouvées et remises sur... Puis il y a eu une édition de mon premier album un peu augmentée, avec toutes ces maquettes qui sont incroyables, parce que j'ai vraiment l'impression que de rentrer... d'être le témoin de ce qui se passe dans ma chambre d'adolescent, quoi. Et voilà, donc je suis allé avec Sylvie Coma rencontrer un directeur artistique qui a écouté la cassette, je crois peut-être 4 secondes, et on s'est retrouvé dehors. Et c'était tellement drôle, c'était tellement vraiment un échec désopilant, quoi. Et donc on est retourné à Rennes et c'est là où Franck Darcel se séparait avec Marquis de Sade. Et il m'a dit, je vais t'aider à faire tes maquettes. Et donc je me suis retrouvé avec les musiciens de Marquis de Sade pour faire mes premières maquettes. Et on s'est retrouvé dans un studio à Rennes qui s'appelait Studio DB. Et on a enregistré toutes ces chansons. Et là tout d'un coup, ça avait un sens, quoi. Véritablement, Franck a compris, même si j'avais envie de faire quelque chose de plus rock, mais finalement... Les choses, je lui faisais beaucoup confiance aussi, donc les choses se sont un peu fabriquées comme ça. Il m'a fallu 1 ou 2 albums avant que je prenne moi-même possession, que je prenne les rênes de ma destinée.
On va en rester là pour aujourd'hui, Étienne Dao. Merci, à demain.
À demain.
Chaque année galère, un anniversaire, les années passent, je trépassais. Pas vrai, je rêve, l'enfance s'achève, l'adolescence, l'insouciance faut. Que je cadenasse mais je tiens pas en place. Faut que je me range mais ça me démange. J'aimerais t'en retenir le temps. J'aimerais savoir s'il y a un plan. Le temps passe et je ne le retiens pas. Faut-il dans la vie être un père ou un mari? Se séparer de ses amis sans liser dans la nuit et vivre à demi. De morale, de confort, d'ennui être. Un bon débile, un peu mais servile. Et puis un sinistre imbécile. Oh vous mes copains, vous ma bande, restez là, je vous le demande. Le temps passe et je ne vous retiens pas.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Étienne Dao. À voix nue, réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Martin Guénard, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.
Mais je tiens pas en place. Faut que je me range, mais ça me démange. J'aimerais t'en retenir.